Fraise Ganel, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de prendre vos nouvelles fonctions en qualité de vice-président de la Banque mondiale pour la zone Afrique et tout de suite vous avez pensé venir en premier lieu en RDC. Est-ce qu'il y a des motivations à ce premier choix de la RDC dans votre destination?
Oui, bien sûr. Comme vous savez, la RDC est un pays très important dans la région Afrique. C'est un pays de 100 millions d'habitants à peu près, un pays qui a beaucoup de potentiel, autre que le capital humain, elle a des ressources naturelles, elle a beaucoup, beaucoup d'atouts et de possibilités pour la croissance et le développement. Et donc, vu l'importance de RDC sur le continent africain et vu la possibilité que ce pays joue un rôle de moteur de développement pour toute la région, je pensais que ce serait important pour moi de venir ici pour d'un côté souligner l'importance que la Banque mondiale met sur la coopération et le partenariat avec les RDC et de l'autre côté pour rencontrer les gens. Quand je dis rencontrer les gens, j'ai rencontré la société civile, j'ai rencontré le secteur privé, le gouvernement, pour les écouter, essayer de comprendre quelles sont les priorités.
Vous les avez rencontrés, vous avez discuté, notamment les autorités du pays, la société civile, comme vous l'avez dit. Est-ce qu'on peut se faire une idée de l'objet des discussions que vous avez eues avec ces différentes personnalités?
Oui, en fait, nous avons parlé de différentes priorités et projets qu'on peut envisager et financer en RDC. On a parlé de l'importance du capital humain, l'importance d'investir dans les êtres humains, dans le capital humain de RDC. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire investir dans l'éducation, investir dans la santé, pour assurer que nous avons des jeunes hommes et femmes capables d'être compétitifs dans l'économie mondiale. Nous avons aussi parlé de l'importance des infrastructures, l'importance de l'énergie, l'importance de télécommunications, du transport. Et nous avons discuté de différentes façons de financer des projets d'infrastructures et surtout comment est-ce qu'on peut mobiliser des fonds privés pour financer des projets d'infrastructure. Ce sont deux points très importants que nous avons abordés. Nous avons aussi abordé une autre question très importante, et c'est la question de l'égalité homme-femme, la question de genre. Un pays ne peut pas développer sans régler le problème de genre. Je m'explique. Pour développer, un pays a besoin de développer sa classe moyenne. Si vous regardez la classe moyenne partout au monde, c'est la famille moyenne partout au monde, c'est une famille où il y a deux adultes qui travaillent, un homme et une femme. Donc, on a besoin de développer les femmes congolaises pour avoir un développement équilibré du RDC. Voilà un peu les questions, les différentes questions que nous avons évoquées.
Nous savons que l'enveloppe, le portefeuille de la Banque mondiale en RDC pèse 3,8 milliards. Si mes informations sont fausses, vous pouvez les corriger. Et dans le contexte politique actuel de la RDC, il y a des gens qui pensent que la Banque mondiale est en train de jeter l'argent dans un puits sans fond. Qu'est-ce que vous en dites?
Nous finançons des projets spécifiques. D'abord, votre question, vous avez commencé par parler du contexte politique. Vous savez que la Banque mondiale est une agence de développement. Nous sommes une banque de développement. Nous avons un mandat économique. Nous n'avons pas de mandat politique.
Mais lorsque la politique ne marche pas, elle influe sur l'économie.
Ça dépend du type de projet que vous financez. Nous, on travaille, quand je travaille dans le secteur social, par exemple, quand j'étais dans la région de Goma, nous avons visité le projet financé par le Fonds social pour la création de PME, pour aider les petits producteurs agricoles. Ce sont des projets qui affectent la vie des hommes et des femmes directement. On ne rentre pas là dans la politique. J'ai visité notre projet routier, le projet de RN2. Là, j'ai survolé la route, j'ai vu une route. Là, c'est un vrai service à quelque chose que vous voyez, vous touchez, ça n'a rien à voir avec la politique. Donc voilà des exemples que je veux vous donner, que quand vous travaillez directement avec les populations, avec les communautés, vous pouvez avoir un impact, et nous allons continuer notre relation. Et quand je parle de relation avec le RDC, et quand je parle de partenariat avec le RDC, ce n'est pas avec un certain gouvernement ou un certain groupe, c'est un partenariat entre la Banque mondiale et la population congolaise. Et notre rôle, c'est la lutte contre la pauvreté et assurer un développement économique rapide et équitable.
Vous prenez la vice-présidence de la Banque mondiale pour la zone Afrique, ce sera 600 projets à gérer et un portefeuille de plus de 71 milliards de dollars. La tâche qui vous attend est énorme. Comment comptez-vous vous y prendre?
Je suis très très heureux, très excité par cette tâche. Je dois vous dire quelque chose. Avant de prendre ce rôle de vice-président pour l'Afrique, j'étais vice-président à la Banque mondiale pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Et j'étais ravi quand mon patron m'a proposé de quitter l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient pour venir en Afrique, pour une raison simple. J'ai passé mes années les plus importantes de ma carrière en Afrique subsaharienne. J'ai vécu, ma fille est rentrée en école primaire, en fait en jardin d'enfants, à Abidjan. Et elle a eu son bac à Tananarive. Donc j'ai passé beaucoup d'années en Afrique et je suis tellement content d'être de retour et je vais faire mon mieux pour réussir cette mission.
Monsieur Fès, merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Radio Capi.
C'est bon pour vous.
Merci beaucoup, Amédée Moura pour Agence Reuters. Monsieur le Président, vous venez à un moment particulier pour la RDC. À un moment politique, j'ai compris que vous ne voulez pas parler de la politique, vous êtes une agence de développement, mais cela n'exclut pas le fait que, est-ce que la Banque mondiale mesure les risques et politiques qui pèsent sur la RDC en rapport avec la situation actuelle du pays?
Écoutez, je vais être très franc avec vous.
Oui.
Je vous ai expliqué, vous avez répété dans votre question, que nous sommes des économistes de développement, que notre rôle c'est de la lutte contre la pauvreté et le développement économique, que nous ne sommes pas des experts, nous ne sommes pas des politicologues, nous ne sommes pas des experts politiques. Et vous essayez quand même de me poser une question politique.
Non, ma question revient à ceci. Mm-hmm. Est-ce que tout ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'aujourd'hui, la Banque mondiale peut travailler comme il a toujours travaillé en RDC ces 10 dernières années ou ces 15 dernières années? Il n'y a rien qui va changer, il n'y a aucun risque sur vos projets, sur vos projections, sur vos perspectives par rapport au pays?
J'ai jamais dit qu'il n'y a aucun risque. Nous travaillons partout. Si vous travaillez dans le domaine du développement, par définition, vous prenez des risques, monsieur. Par définition, vous prenez des risques. Donc, écoutez, vous parlez de RDC, mais nous, on travaille aujourd'hui au Yémen. Moi, j'ai fait des projets en Irak. J'ai quitté ici pour des réunions sur la Somalie. Donc, par définition, si vous voulez lutter contre la pauvreté, si vous voulez financer le développement, améliorer la vie des gens, vous devez travailler dans toutes les situations et vous devez prendre des risques. Si la Banque mondiale ne prend pas de risques, qui va prendre? Donc, nous acceptons de prendre des risques pour lutter contre la pauvreté, pour réussir le développement économique. Ça c'est notre rôle. Ça, c'est notre rôle.
Alors, comme il y a des risques, y a-t-il des risques le plus redoutable pour la Banque mondiale par rapport à la situation de l'RDC? Qu'est-ce que vous redoutez le plus?
Qu'est-ce qu'on redoute le plus? Bien sûr, quand je finance un projet, ce que je redoute le plus, c'est que le projet ne réalise pas ses objectifs. Le projet peut ne pas réaliser ses objectifs pour plusieurs raisons. par exemple, des problèmes d'exécution de projets. Nous avons, je vous donne un exemple très concret qu'on a aujourd'hui en RDC. Dans notre projet routier, il y a dans un de nos projets routiers un problème dans l'exécution parce qu'il y a des cas de violence basée sur le genre dans l'enceinte de notre projet. Ce qui nous a forcé d'arrêter, de suspendre ce projet. Voilà un problème. Donc, moi, j'ai toujours peur d'avoir ce genre de problèmes qui pèsent sur nos projets et sur le résultat de nos projets. Donc, qu'est-ce que je fais quand ce problème arrive? On essaye de trouver des moyens et des solutions pour que le projet continue. Ça ne veut pas dire, ce que je dis toujours à mes collègues, le fait qu'il y a un problème, ça ne doit pas dire qu'on ne travaille pas. Quand il y a un problème, ça veut dire qu'il faut essayer de trouver des solutions. Nous sommes là pour servir la population. Nous sommes là pour financer la lutte contre la pauvreté. Je ne peux pas arrêter parce qu'il y a un problème. Je dois essayer de trouver des solutions et prendre des actions nécessaires pour réussir la mission de lutte contre la pauvreté.
Ok, j'ai compris que vous minimisez pratiquement les risques politiques. Alors je pose une question économique. L'RDC projette un taux de croissance de 4,2% pour 2018. L'économie de l'RDC reste dépendante des matières premières. Et pensez-vous que le pays peut parvenir à enregistrer les prévisions?
Oui, mais est-ce que c'est ça l'objectif? Je pense que notre objectif doit être la diversification économique. Et je dois vous remercier pour avoir posé cette question, parce que là, vous me permettez d'aborder un point essentiel. Et c'est un point pas seulement pour les RDC, mais pour toute notre région. Et c'est, je me pose la question, est-ce que nos pays sont préparés pour l'économie du futur? Est-ce que nos pays sont préparés pour l'économie digitale, pour les nouvelles technologies? Et la réponse est non. C'est un problème partout, dans tous nos pays. On a besoin, le futur, c'est pas dans les industries manufacturées. Le futur, c'est dans les high-tech. Le futur, c'est dans l'économie digitale. Qui dit high-tech, qui dit économie digitale, ça veut dire qu'on a besoin d'investir beaucoup plus dans des infrastructures. Et surtout, les infrastructures de télécommunication. Partout dans nos pays aujourd'hui, on constate que la qualité des télécommunications est relativement mauvaise. On parle de 3G dans nos pays, quand le reste du monde parle de 5G, et le coût est très élevé. Pour avoir accès à l'Internet, dans la plupart de nos pays, le coût est 3 ou 4 fois plus élevé qu'aux États-Unis. C'est pas normal. Donc, on a besoin d'investir dans tout ce qui est télécom, d'investir dans tout ce qui est technologie. Mais la technologie, la high-tech et tout ça, a besoin des êtres humains pour le gérer. Et donc, on a vraiment besoin. Et si vous regardez dans tous nos pays, on a un gros problème de qualité de l'éducation. Ce n'est pas seulement un problème d'accès à l'éducation, mais c'est un problème de qualité de l'éducation. On a des gens qui sortent des écoles qui ne savent pas lire et écrire. Est-ce que ces gens-là vont pouvoir faire fonctionner un ordinateur? Voilà. Bon, moi, je pense que ça, c'est le défi. Je pense que vous posez la bonne question. Et ce n'est pas seulement pour le RDC, mais c'est pour tous nos pays. Quelle est l'économie du futur? Et comment est-ce qu'on peut assurer que nos pays vont rentrer dans cette économie du futur et vont réussir ce pari? Et c'est les infrastructures et le capital humain.
Ok. Alors, que peut faire l'Afrique, selon qu'on est en Afrique centrale, en Afrique de l'Est ou australe, pour mieux répartir la prospérité issue de la croissance qu'on remarque ces dernières années?
C'est de regarder le modèle économique. Et c'est de assurer que nous avons un modèle économique qui assure ce que j'appelle la croissance inclusive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la croissance inclusive? Ça veut dire qu'il faut développer la classe moyenne. La croissance inclusive implique l'élargissement de la classe moyenne. Donc, la classe moyenne partout au monde, ça dépend des PME. Il faut développer les PME. La classe moyenne implique l'éducation. Il faut développer l'éducation. La classe moyenne, comme je venais de dire à votre collègue, a besoin d'un homme et une femme qui travaillent. Donc, toutes les questions des égalités hommes-femmes et l'approche genre, c'est important. Il y a aussi les inégalités dans nos pays ne sont pas seulement des inégalités verticales entre différentes classes, mais il y a les inégalités régionales. On a des régions qui sont riches et d'autres qui sont très pauvres. Ça veut dire que nous devons aussi investir dans les régions les plus pauvres et s'assurer que tout le monde, partout dans nos pays, dans toutes les régions, a accès à des services de base, a accès à l'éducation, à la santé. Et c'est pour cela, quand on parle par exemple des infrastructures de télécom ou des infrastructures de transport, tout ça c'est nécessaire pour assurer un partage équitable des fruits de la croissance. Ceci étant, alors moi je parle de programmes économiques et de modèles de croissance. Ce modèle de croissance aussi doit inclure un programme social, un programme défilé de protection pour les vulnérables et les plus pauvres qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas la capacité de bénéficier de cette économie plus diversifiée et plus dynamique. Partout au monde aujourd'hui, nous voyons les pays, bon, surtout je regarde les expériences de l'Amérique latine, où on met en place des filets de sécurité basés sur les transferts de cash. Des systèmes ou d'autres endroits. J'ai parlé par exemple du Fonds social ici en RDC qui travaille dans les communautés les plus pauvres et qui essaie de créer de l'emploi pour les gens les plus pauvres. Mais donc, c'est une longue réponse à une question relativement courte, mais pour conclure, c'est pour améliorer la répartition des fruits de croissance, il faut avoir un modèle économique, un modèle de développement beaucoup plus diversifié et il faut aussi avoir un système de protection sociale qui fonctionne.
Oui, j'aimerais aussi, pour terminer, une petite question, avoir votre avis par rapport à l'augmentation de la dette publique en Afrique, dans certains pays comme le Mozambique, le Ghana, le Tchad. Quels sont les risques liés à cette augmentation de la dette publique?
C'est très important. On ne peut pas regarder seulement les questions de l'augmentation de la dette publique en termes absolus sans regarder l'utilisation de cette dette. En principe, si vous vous endettez à un taux X et vous investissez cet argent dans un projet qui a rentabilité plus élevée que ce taux X, vous n'aurez pas de problème de dette. Le problème arrive quand vous vous endettez à des taux d'intérêt trop élevés et vous investissez dans des projets à rendement faible. Et c'est ça vraiment le vrai problématique. Le conseil que moi je donne à tous nos pays, c'est qu'il faut éviter l'endettement cher. D'abord, il faut chercher des dons et des endettements concessionnels. Il faut investir dans des projets à un rendement élevé. En plus, souvent, on peut éviter l'endettement, avoir les projets sans que l'État s'endette. Si je fais appel à des investisseurs privés, je peux avoir les services sans avoir la dette. Donc voilà, c'est ça l'approche que je pense peut nous aider tous, parce que l'Afrique a besoin de projets, l'Afrique a besoin des infrastructures, et donc il faut voir comment est-ce qu'on peut financer ces projets, comment on peut financer ces infrastructures sans rentrer dans des problèmes, sans avoir un problème d'endettement, et ça c'est surtout en mobilisant le privé pour avoir le service sans dette et aussi quand on a besoin d'endettement public, faire recours à l'endettement concessionnel. C'est moi qui vous remercie.